Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil pour enregistrer votre question. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je confie maintenant la parole à Madame Véronique Pédague pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Merci.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc Véronique Pédague, directrice générale de Nexity. Autour de la table avec moi ce soir pour commenter nos chiffres, Jean-Claude Bastien, qui est directeur général délégué de Nexity, Hélène Romano, qui est vice-présidente de l'immobilier résidentiel, évidemment Nadia Bensalem, qui est directrice générale adjointe en charge des finances, Éric Lalécher, qui est directeur financier, évidemment Géraldine Vop et Dominique Vieil, qui sont avec nous ce soir. Donc, si vous le voulez bien, on va vous commenter les slides qui sont en ce moment sur vos écrans. Et puis, si cela vous convient, nous prendrons vos questions à la fin de cette présentation. Donc, d'abord, vous avez eu le communiqué de presse. Les performances 2021 de l'entreprise sont assez plus haut historiques. D'abord, une excellente performance commerciale, puisque nous avons fait 20 838 réservations, en hausse par rapport à 2020. Nos prises de commandes en immobilier d'entreprise s'établissent à 421 millions d'euros. Notre pipeline, donc au fond, ce qu'on a en main en termes de business pour les années qui viennent, représente 5 ans de chiffre d'affaires, mais j'y reviendrai. Donc ça, c'est la performance commerciale. En ce qui concerne la performance financière, notre chiffre d'affaires est en hausse de 5% par rapport à 2020. Il s'établit 4,6 milliards d'euros. Notre résultat opérationnel courant est à 371 millions d'euros, 8% de taux de marge. Donc vous voyez qu'on remonte progressivement au taux de marge pré-Covid. Et puis notre endettement net est ramené à 598 millions d'euros, mais j'y reviendrai dans une seconde. Donc au-delà de ces chiffres, au fond, comment est-ce qu'on les interprète? Alors, première conviction, c'est qu'au fond, ces chiffres prouvent la solidité, la grande solidité de Nexity et de son modèle d'opérateur immobilier intégré. Alors, premier graphique que vous trouvez sur votre gauche, au fond, je pense que ce qui fait vraiment la caractéristique de Nexity ces trois dernières années, c'est que nous avons passé la crise en gardant un niveau de réservation à peu près stable en 2019, en 2020 et en 2021, autour de 21 000 réservations. Alors même qu'avec le Covid, vous le voyez sur la courbe qui est juste en dessous, les chiffres du marché qui étaient à 167 000 en 2019 ont décru jusqu'à 134 000 en 2020 et ont remonté, mais lentement, en 2021 à 145 000 unités. Donc vous voyez que dans ce marché qui flanche, en fait, nous, on est resté très stable en termes de réservation. C'est au fond, je pense, la preuve de notre vraie puissance, au fond, en termes de commercialisation. Deuxième élément, évidemment très fort, c'est un pipeline qui est à un niveau historique extrêmement élevé. Ça nous donne, en termes de chiffre d'affaires, une sorte de sécurité et de visibilité très élevée. Et c'est au fond, et je vais vous en dire un mot, un pipeline qui est constitué d'une façon telle que, grosso modo, on est relativement résilient à l'inflation et probablement, évidemment toujours dans une inflation qui resterait modérée, on peut avoir des côtés positifs. D'abord, le backlog. Le backlog, c'est 2 années de chiffre d'affaires. Ce backlog, au fond, ce sont tous les revenus qui vont venir des opérations qu'on a commencées. Sur ces opérations qu'on a commencées, évidemment, les prix de vente sont fixés puisque les logements sont soit réservés, soit actés devant notaire. La plupart des marchés de travaux sont passés ou ils sont en train d'être passés. Donc, grosso modo, sur ce backlog, ces 2 années de revenus, on a une bonne maîtrise de notre marge, et de notre Europe. Sur notre potentiel à 14,5 milliards, 4 ans d'activité, là, on est dans un schéma un petit peu différent où on a nos promesses en main. Ces promesses, elles sont au coût historique. Donc, sur 30 ou 40% du prix total final de ce que l'on fait, on a un prix qui est fixé. On est toujours prudent dans nos bilans sur l'anticipation des hausses de prix des logements et on a toujours des marges et des aléas sur les coûts de travaux. Donc, on se dit que s'il y avait une tendance inflationniste, on aurait peut-être sur ces sujets-là un upside sur la partie potentielle. Dernier point très intéressant, et ça c'est au fond l'effet de notre plateforme de services qui nous a mis en capacité de saisir les nouvelles demandes qui se sont au fond développées post-Covid. On fait plus 11% dans les services. On a été capable de capter évidemment la hausse sur des transactions et des locations qui ont eu lieu l'année dernière en post-Covid. Et vous le verrez tout à l'heure avec Jean-Claude, on a été capable aussi de capter cette demande qui arrive sur le coworking avec Morning, qui a fait des chiffres tout à fait intéressants. Donc, premier point vraiment, et je pense que ces graphiques vous le montrent, une vraie solidité du modèle d'opérateur immobilier de Nexity. Et puis, deuxième interprétation que nous donnons à ces chiffres-là, c'est vraiment la traduction de l'achèvement de la revue stratégique. Je n'y reviens pas, on en a parlé plusieurs fois, je pense que vous êtes bien au fait. La vente de Domitys qui n'était pas... l'activité d'exploitation n'était pas complètement dans nos cœurs de métier, de Century 21 qui était sans synergie avec les autres activités du groupe. Une décision prise de recentrer nos moyens de développement sur le territoire français. Ma conviction, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements à venir sur le territoire et que c'est un territoire qu'on maîtrise très bien et que donc finalement nos moyens de développement seront plutôt concentrés sur le territoire français et on a arrêté le développement des activités de promotion en Allemagne. Le résultat de tout cela, c'est ce que vous avez sur la droite, une dette nette qui a été ramenée à 598 millions d'euros, une fois et demie l'EBITDA, contre 2,3 fin 2019 et 1,9 fin 2020. Donc, achèvement de la revue stratégique, recentrage géographique, une dette nette en forte baisse. Nous sommes, en cette sortie de crise, à la fois plus forts et aussi plus manœuvrants. Alors, 2021, ça a été aussi des années où on a travaillé un certain nombre de sujets. Donc, le premier sujet, évidemment, c'est Nexity, partenaire de référence des collectivités. Vous le savez, aujourd'hui, l'enjeu pour tous les promoteurs, c'est l'obtention des permis. Nous nous positionnons depuis longtemps comme un partenaire de référence des collectivités. Alors, plusieurs éléments, mais on en a d'autres. Je pense que ce qui nous aide beaucoup en ce moment, c'est la forte capillarité du maillage territorial. Alors, la carte est un peu petite, mais elle dit bien là où on se trouve, à la fois en promotion et en service. On est vraiment, on a plus de 400 implantations. Hein. On oublie souvent que Nexity, ce sont aussi des agences de centre-ville, de syndic, de transactions. C'est très important, on est présent sur le territoire, on est visible. Et puis, il y a toujours un représentant Nexity sur le territoire. Et ça, je pense que ça nous aide beaucoup dans le dialogue qu'on a avec les collectivités territoriales. On a un temps d'avance sur la ville bas carbone. Et ça, dans le moment où il faut réhabiliter l'acte de construire, le fait d'être vraiment en avance sur les autres, sur le bas carbone, aide beaucoup. Vous vous souvenez, on est encore cette année premier promoteur bas carbone. Ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'on est extrêmement présent également via les services sur ces sujets-là, soit via Nexity Property Management, qui est très en pointe sur le décret tertiaire, soit vis-à-vis de nos activités de syndic. On a aujourd'hui une soixantaine d'opérations vraiment achevées de rénovation énergétique qui ont été réalisées grâce à nos équipes, au fond, au sein des syndics. On a 300 dossiers en main. Donc, vraiment, une présence très forte, promotion et service sur le bas carbone. Et puis, un engagement unique sur la ville inclusive. Ça, vraiment, dans le dialogue que j'ai avec les maires, c'est très important aujourd'hui, quel que soit le bord politique du maire. On est vraiment très présent avec les bailleurs sociaux. On est très présent avec notre fondation et tout ce qu'elle fait autour des jeunes. Et puis, il y a, au fond, quelque chose qui... très apprécié par les maires aujourd'hui, qui est Nexity Non-Profit, je pense que vous vous en souvenez. On construit dans des villes qui sont demanderesses, évidemment, mais elles le sont toutes aujourd'hui, des unités qui font à peu près 20 logements, pour lesquelles, à chaque fois, on a pris des grands accords avec des grands opérateurs comme Emmaüs, donc qui les gèrent. Et donc, aujourd'hui, on en a deux complètement ouvertes. On en a 14 qui devraient ouvrir cette année. Et nos estimations, c'est qu'on aura fait 1200 logements en non-profit en 2024-2025. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par les maires et qui leur prouve à quel point on est en capacité, au fond, d'être à côté d'eux dans la construction de la ville de demain. Donc, un axe très important que nous approfondissons évidemment tout le temps, moi la première, auprès des collectivités territoriales qui sont détentrices au fond des permis. Deuxième sujet que nous avons travaillé en profondeur l'année dernière, la relation client et la qualité de la relation client, dont vous le voyez au fameux palmarès des échos, nous étions 99e en 2019 et nous sommes aujourd'hui 7e en 2021. Donc, une remontée très, très forte qui montre l'engagement de l'ensemble des collaborateurs sur ces questions de qualité. Et puis, je vous donne dans le slide un exemple que je trouve très intéressant. En matière de promotion, on a toujours un moment de grande frustration de nos clients au moment où ils choisissent, au fond, les prestations de leur appartement. Parce qu'ils voudraient pouvoir y revenir à plusieurs fois, y passer du temps, tant que nous n'avons pas toujours. Nous avons déployé l'année dernière un outil qu'on appelle Inside. Ce n'est pas du métaverse, mais c'est presque ça. C'est votre appartement, l'appartement que vous souhaitez acheter, qui est en 3D. Et puis, vous vous promenez dans cet appartement et puis, vous changez les prestations, les carrelages, les sols. Et vous avez au fur et à mesure un devis qui s'établit, qui vous permet d'itérer. C'est un produit qu'on a sorti l'année dernière. Aujourd'hui, 90% de nos clients choisissent d'utiliser cet outil-là pour choisir leurs prestations. Une activation croissante des synergies intra-groupes. Depuis 3 ans, dès qu'on sort de l'activité de promotion, évidemment, on promeut notre activité de syndic et les mandats ont été multipliés par 3 depuis 2019. Et les synergies foncières, je vous en avais parlé l'année dernière. Très important que toute l'entreprise, y compris les services qui sont très implantés sur le territoire, qui ont eux-mêmes des fonciers, qui connaissent bien ce métier-là, fassent remonter tous les fonciers intéressants à la promotion. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et on a signé 26 terrains sous cette forme de synergie foncière l'année dernière, ce qui est effectivement une force très grande en matière de chasse foncière. Dernier point, évidemment, peut-être le principal, une culture d'entreprise vigoureuse. Le schéma que vous avez vu tout à l'heure où on a au fond un marché qui se creuse et Nexity qui reste très stable en matière de réservation, c'est bien la force de l'entreprise et de ses collaborateurs. Un élément important, c'est qu'évidemment, les collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. Ça, je vous assure que ça change la nature même de l'engagement des collaborateurs autour de la stratégie. Et puis, vous l'avez vu également, est rentrée dans l'action de concert, la mondiale, qui est entrée au capital cette année à hauteur de 5%. Important également, nous avons été l'année dernière Best Place to Work, ça dit au fond la qualité de travail au sein de Nexity et l'engagement des collaborateurs. Et de plus en plus, on s'investit dans une entreprise apprenante. Cette entreprise intervient dans un monde en transformation rapide. Il faut qu'on soit aussi rapide que la transformation, quelquefois plus rapide que la transformation elle-même. Nous devons rester une entreprise apprenante. Et l'année dernière, nous avons ouvert 2 CFA qui forment des jeunes à nos métiers, soit des métiers de développement foncier, soit des métiers de vente pour les 2 CFA que nous avons créés l'année dernière. Maintenant, je vais laisser la parole à Hélène Romano sur l'activité commerciale en matière d'immobilier de logement résidentiel. Pardon.
Merci Véronique. Bonsoir à tous. Un marché du logement neuf qui est toujours en déficit d'offres. Le marché du logement s'est établi en 2021 autour de 145 000 unités, en progression de 8% par rapport à l'année 2020, qui avait baissé de plus de 20%, et donc pas encore d'atteinte des niveaux 2017, 2018, 2019 du marché qui se situait autour de 167 000 unités. Un marché toujours porté par une demande très forte, poussée par des facteurs démographiques, progression du nombre de ménages dans toutes les régions en France. Pour rappel, la taille des ménages est passée de 2,6 en 1990 à 2,2 en 2020. Et surtout, la proportion de foyers monoparentaux est passée de 27% en 1990 à 39% aux mêmes dates. L'appétit des investisseurs institutionnels, sociaux ou non sociaux, et des investisseurs particuliers. Prolongation des dispositifs fiscaux jusqu'en 2024 pour tirer parti des taux bas et de la pierre perçue comme une valeur refuge. Cependant, le marché a fait face à un redressement lent des permis de construire, un durcissement des conditions de crédit en durée et en capacité d'endettement et une fiscalité lourde. L'offre commerciale de Nexity est de nouveau en croissance. Elle a cru de 6%. Celle du marché n'est pas encore remontée. Elle est toujours en baisse de 2,3% sur un an. Cette progression s'est faite chez Nexity malgré le lent redressement des délivrances des permis de construire. Le graphique que vous avez devant vos yeux montre le point bas atteint en 2020, autour de 227 000 autorisations de logement, qui est remonté en décembre 2021 à 259 200 logements autorisés, toujours en retrait de 3% par rapport à 2019, qui avait déjà anticipé une baisse en raison des élections municipales. Face à cela, nous avons déposé un nombre très important de permis de construire en 2020 et avons pu, donc en 2021, obtenir plus de 9% de plus de permis par rapport à 2019. Et nous avons actuellement en cours d'instruction le double de permis en cours d'instruction. Notre offre commerciale a pu remonter. Elle s'établit à 7655 lots et devrait rejoindre au cours des tout prochains mois et se rapprocher des niveaux de 2019. Une capacité éprouvée de Nexity à s'adapter à la demande, une demande toujours aussi forte en vente au détail comme en vente en bloc. Les ventes en bloc ont représenté 55% de nos 20 838 réservations de l'année 2021 et elles ont progressé de 11% en volume grâce aux conditions de crédit favorables. Les taux sont toujours bas, la capacité d'épargne renforcée et la prolongation des dispositifs fiscaux. Les ventes en bloc, elles représentent 45% de nos réservations. Elles ont subi une baisse en valeur de 13% en raison de l'effet de base de l'année dernière des ventes CDCH. Pour rappel, nous avions fait un peu plus de 5000 réservations en 2020, près de CDCH, plutôt en logement, en financement libre. La part des logements sociaux reste de 29% dans notre mix, un peu plus élevé que l'année 2020, en raison des reports d'agrément, donc des réservations qui auraient dû être signées en 2020, des logements sociaux qui ont basculé en 2021. Donc une activité commerciale solide, on l'a vu depuis 3 ans autour de 21 000 réservations. Elles ont augmenté de 1% dans le nouveau périmètre hors Égide et elles ont perdu 3% en valeur en raison d'une évolution du mix. Elles se sont établies à 4 315 000 euros. En raison donc d'une modification du mix à la fois géographique, avec une montée en puissance très forte des régions, plus 23% de ventes en région, et également une modification du mix dans la vente en bloc, avec un retour sur l'année 2021, plus fort qu'en 2020, des bailleurs sociaux. Nos prix ont augmenté, notre prix moyen au mètre carré en Île-de-France a cru de 2% et en région de 3%. Un pipeline résidentiel qui nous offre une forte visibilité, un backlog qui s'établit à 5,6 milliards et qui, notre backlog, ce sont nos réservations, nos actes signés et non constatés en chiffre d'affaires à l'avancement, qui représente près de 2 ans de chiffre d'affaires. Notre pipeline, lui, est de 12,3 milliards. Il représente jusqu'à 4 ans de chiffre d'affaires. Il est constitué de toutes nos promesses de vente réservées, toute notre offre non commercialisée à ce jour avec l'offre actuelle. Des produits de Nexity adaptés aux nouvelles attentes. Nous y sommes attachés. De tendances fortes. La reconstruction de la ville sur la ville, c'est la réhabilitation, la transformation, et l'exemple que vous avez sous les yeux montre la transformation d'un parking public situé en plein cœur de Paris, dans le 4e arrondissement, et qui devient un immeuble de logement et un établissement sportif, un Cinespeak, et la présence dans tous nos logements de façon systématique de la nature, à travers des toitures utilisées en jardin partagé ou des zones de pleine terre, y compris lorsqu'on a des parkings en sous-sol qui peuvent atteindre jusqu'à 60% en plein centre-ville. Et bien sûr, la capacité de plus en plus développée de respecter et de préserver la nature, comme nous avons eu l'occasion de le faire à Viry-Châtillon, où on a construit autour de grands arbres. Je passe la parole maintenant à Jean-Claude Bastien.
Merci Hélène. Je vais d'abord vous parler de l'immobilier d'entreprise. Alors évidemment, sur ce marché, vous le savez bien, nous avons un choc significatif du fait de l'activité Covid. C'est un marché qui, au bout de deux ans, est en bas de cycle. L'investissement des investisseurs institutionnels est en retrait de 11% d'une année sur l'autre. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui pourrait réactiver ce marché? Les investisseurs attendent en fait deux choses. La première chose, de voir comment la dynamique de demande de bureaux s'enclenche une fois digéré le sujet du télétravail. Et puis ensuite, une évolution de l'offre parce qu'il est impératif pour eux d'investir dans des actifs qui sont compliant avec les exigences réglementaires en termes de bas carbone. On observe malgré tout, du côté de la demande, une légère reprise en 2021 avec un effet de base très bas puisque effectivement 2020 était le point bas de la demande à 1,4 million de mètres carrés. En 2021, on est à 1,8 million de mètres carrés, donc une progression de 38%. Mais si on regarde sur une moyenne longue de 10 ans, on est encore en retrait de 20%. L'information importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce marché est très segmenté. En réalité, il est à deux vitesses, avec une prime extrêmement forte à la centralité, qui fait que en région Île-de-France, le segment de marché qui sont gagnants, c'est le QCA et la Défense, et que en région, ce sont les grandes métropoles. Tout le reste est largement perdant. Ça veut dire qu'en réalité, ces segments que je viens de souligner sont soit ont retrouvé leur niveau pré-Covid, ça c'est le cas de l'Île-de-France et du QCA et de la Défense, ou sont très proches de le retrouver, c'est les métropoles régionales. Dans ce contexte, notre activité de promotion d'entreprise a enregistré, comme vous le voyez dans l'image du milieu de la slide 19, a enregistré une performance commerciale très satisfaisante, parce que si on retraite de la Garenne-Colombes, qui était très exceptionnelle, on voit bien qu'on n'a pas à rougir de cette performance commerciale. Le sujet, c'est l'année à venir. Très clairement, compte tenu de l'attentisme des investisseurs, on est à peu près convaincu qu'on ne fera pas le même niveau de prise de commande, qu'on devrait être en retrait par rapport à ce niveau de 2021, en espérant des jours meilleurs. Pour les jours meilleurs, nous sommes préparés. Pourquoi nous sommes préparés? Parce que depuis trois ans, avec notre logique de plateforme de service, nous avons fait deux choses. La première chose, nous avons travaillé notre façon de produire nos coques immobilières d'entreprise en anticipant la contrainte bas carbone et en intégrant le besoin de flexibilité d'usage des utilisateurs. Et nous l'avons fait d'autant plus que nous avons en réalité dans le même dispositif les promoteurs qui travaillent avec les équipes de service qui par ailleurs ont l'expertise en termes de bureaux à l'usage du côté morning ou en termes d'agencement d'espace. Vous voyez sur la slide 20 une illustration de nos savoir-faire. J'en commenterai deux, l'image de gauche et l'image de droite. L'image de gauche, c'est Nice Meridia qu'on a livré il y a deux ans pour vous dire qu'effectivement on est lancé depuis déjà un moment sur cette logique bas carbone. Je rappelle que sur cet immeuble on a à peu près eu tous les prix imaginables possibles pour un immeuble bas carbone. Et l'image de droite, c'est ce qu'on vient de livrer, c'est l'ancien immeuble de RTL pour vous situer, 22 rue Bayard. C'est un immeuble emblématique parce qu'on est là en plein centre-ville et on est sur de la restructuration et sur de l'ossature bois. On remplit toutes les cases de l'intérêt des investisseurs pour demain. Donc c'est une vraie démonstration. Si vous le voulez bien, je vais vous parler maintenant des activités de service. Sur les activités de service, Véronique l'a dit en introduction tout à l'heure, nous avons effectivement un vrai rebond avec une croissance de 11%. Vous voyez là que sur les trois pôles, gestion, exploitation, distribution, les niveaux de progression des chiffres d'affaires. D'ailleurs, la gestion apparaît le parent pauvre en termes de croissance par rapport à l'exploitation et la distribution. De fait, il faut retraiter tout de suite la gestion de l'effet de base, parce qu'en réalité, sur l'activité de gestion, ce qu'il faut retenir, et c'est gestion, notamment l'ADB, l'administration de biens, l'exercice 2020 avait été marqué par une très forte résilience. Les activités de syndic de copropriété et les activités de gestion locative pour lesquelles nous sommes numéro 2 du marché n'avaient pas été lourdement impactées par les épisodes de confinement, contrairement aux autres activités, et donc avaient montré une belle résistance. Et donc, du coup, elles partent d'un niveau relativement élevé. Et par ailleurs, le deuxième effet de correction, c'est que cette année, dans ce périmètre, ce qui a très bien performé, ce sont les activités de location et de transaction, plus 11% de progression. Mais ces activités ne représentent que 25% de la totalité de l'activité de l'ADB. Par ailleurs, sur ces activités de gestion, ce que je peux aussi vous souligner, c'est que nous avons fait pivoter fortement notre activité d'ADB et notre activité de property management. ADB, nous sommes le deuxième acteur du marché. Property management, nous sommes le leader du marché, 20 millions de mètres carrés sous gestion. Le pivot, en quelques mots, s'exprime simplement. Pour l'ADB, un focus très fort sur la relation client, l'offre servicielle pour monétiser la relation client, et pour le property management, un focus sur l'efficacité opérationnelle pour être plus efficace dans le traitement de des parcs qu'on nous confie, avec notamment de la digitalisation à tous les étages. Et donc, on commence à engranger les fruits de cette transformation de vraies conquêtes commerciales. Le property management a renouvelé cette année son principal client et pour 5 ans et demi, grâce aux progrès montrés dans leur exploitation. Et nous avons aussi une activité qui s'appelle Accessite, qui fait le property management dans le commerce, où nous avons aussi renouvelé, pour les mêmes raisons, deux des trois plus grands clients. Donc très clairement, les efforts que nous avons fournis sont perçus par les clients qui nous renouvellent leur confiance. En ce qui concerne l'exploitation, là ce sont les activités principalement de Studéa, résidence étudiante, et de bureaux à l'usage avec principalement Morning. Le point frappant là, c'est que nous sommes de retour au niveau d'activité pré-Covid. Très clairement, Studéa a un chiffre d'affaires qui progresse de 6%, le taux d'occupation moyen de l'année est de 93%, et nous avons ouvert 4 nouvelles résidences et nous avons en fin d'année retrouvé un taux d'occupation spot qui est très proche de niveau historique. Morning, c'est un chiffre d'affaires en progression de 60%. Très clairement, avec Morning, on a un champion du marché du coworking où on capte l'attention forte des clients. Je vais vous dire comment. Le taux d'occupation moyen sur l'année de 83%, mais à fin d'année, décembre, nous étions revenus pour les espaces matures à plus d'un an, nous étions revenus à 99% de taux d'occupation. Donc très clairement, c'est une grosse accélération. Et on le voit très bien dans le mixte de clientèle de Morning, qui était un coworker très tourné vers les startups. Et aujourd'hui, les startups représentent un tiers de son chiffre d'affaires, les scale-up un tiers, et les grands comptes, c'est ça la grande nouveauté, les grands comptes comme L'Oréal, Altran, la FIFA, représentent un tiers désormais des clients. Donc vraiment un pôle d'attraction. Le troisième pôle, c'est la distribution. La distribution avec e-Sélection et Pearl, très belle performance commerciale. Évidemment, cette performance commerciale est liée à la dynamique de marché du fait de l'appétit des investisseurs particuliers pour l'immobilier résidentiel. Et donc, nous captons notre part de cette croissance du marché. Mais je pense que nous captons un peu plus que notre part par notre capacité à aller faire du volume avec des grands acteurs, que ce soit des acteurs bancaires ou des promoteurs. Et puis, c'est aussi le fait d'avoir réussi à relancer notre offre Pearl, sur lequel désormais, je pense que nous allons retrouver rapidement notre position de leader. Alors, je voudrais finir par les deux dernières slides que vous avez à l'écran. La première sur le service aux particuliers, la seconde sur les entreprises. Non pas pour vous commenter chaque ligne de cette slide, mais simplement pour vous illustrer en quoi notre plateforme de service est active, l'activation de cette plateforme. Ce n'est pas simplement de délivrer nos offres de syndic de copropriété, de gestion locative, les unes derrière les autres, c'est en réalité travailler la monétisation d'une base clientèle de 1 million de clients que potentiellement nous pouvons aller chercher. La question pour nous, c'est de créer de la récurrence avec ces clients. Pour faire cette récurrence avec les clients, nous devons suivre un schéma très classique que bien d'autres avant nous ont déjà expérimenté dans la grande distribution, dans les loisirs, l'hôtellerie ou même dans le luxe. C'est connaître ses clients, segmentation client, c'est mettre en face cette segmentation des offres adaptées à chaque profil client, c'est ensuite créer des parcours clients, digitaliser ces parcours et ensuite monétiser, créer les récurrences pour proposer par des offres servicielles adaptées, proposer des opérations aux clients. Ce processus est engagé, bien engagé. Les quelques chiffres que vous avez au-dessus illustrent notre capacité déjà à le faire. Par exemple, nous équipons nos clients à 75% en termes de produits assurantiels pour la garantie loyer ou pour lorsqu'il s'agit d'assurer l'immeuble à 50%. Donc, nous savons déjà monétiser nos clients. Le sujet, c'est de l'accélérer. Ça, c'est pour la partie client particulier. Et pour la partie client entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de Morning, en vérité, au cœur de l'affaire pour nous, très clairement, c'est en mixant services et promotion, être capable de faire encore plus de promotion et mieux de promotion. Parce que nous avons la seule plateforme intégrée du marché, c'est la nôtre, celle de Nexity, où nous combinons le conseil, l'aménagement d'espace, la promotion, la gestion, l'exploitation, tout sur un one-stop shopping. Alors, la question naturelle, c'est d'accord, mais est-ce que ça produit des effets ? Quelques exemples très concrets de ce que nous faisons déjà, les résultats engrangés. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, on a gagné, comme vous le savez, récemment un appel d'offres Confluence à Lyon, 35 000 m². Nous n'aurions jamais gagné cet appel d'offres si nous n'avions pas été en situation de combiner les expertises de l'immobilier résidentiel, de la promotion d'entreprise et du coworking. Parce que c'est ça qui a fait la différence devant le jury. Et parce que nous avions la plateforme, nous avons été meilleurs que les autres et on a gagné. Autre exemple, c'est l'immeuble qu'on vient de livrer New à Asnières. C'est un immeuble ossature bois, c'est un immeuble surtout dont l'aménagement intérieur, la conception intérieure, qui a pris les codes du coworking, le promoteur a pris les codes du coworking, et bien cet immeuble est aujourd'hui considéré comme un exemple des immeubles du futur. Si un jour vous le visitez, vous en rendrez compte. Et en plus, NPM fait le property management. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons une plateforme de services active.
Merci Jean-Claude. Nadia Bensalem Nicolas, directrice générale adjointe en charge des finances. Je prends la suite pour ouvrir les résultats financiers. Quelques mots d'introduction à cette partie financière pour redire que Nexity a enregistré en 2021 d'excellents résultats financiers, supérieurs à ceux de 2020 évidemment, mais surtout supérieurs à ceux de 2019. Nous avons atteint, dépassé en 2021 l'ensemble de nos objectifs qui étaient en réservation, en chiffre d'affaires, en résultats opérationnels courants et en marge. Le chiffre d'affaires de l'année hors contribution des activités cédées s'élève à 4,6 milliards. C'est 5% au-dessus de notre guidance annuelle qui était à 4,4 milliards. Le résultat opérationnel courant atteint 371 millions d'euros. C'est sur le même périmètre, c'est un plus haut historique. C'est également au-dessus de notre guidance qui était à 360 millions d'euros. Et la marge opérationnelle courante atteint 8% en ligne avec nos objectifs. C'est une nouvelle démonstration de Nexity à tenir ses engagements. Alors, je vais passer en revue les éléments financiers. Je vais commencer par le détail du compte de résultat en slide 27.
Le chiffre d'affaires publié s'élève à 4,837 milliards d'euros et 4,625 milliards d'euros en excluant la contribution des activités cédées au chiffre d'affaires qui s'élève à 211 millions d'euros. Je vous rappelle que les activités cédées, elles ont été consolidées jusqu'au 31 mars pour Century 21 et jusqu'au 30 juin pour Égide Domitys. Ensuite, le résultat opérationnel courant publié, il s'établit à 528 millions d'euros. C'est pratiquement le double de celui de 2020 et il se décompose en deux parties. D'abord, un résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre qui s'élève à 371 millions d'euros, qui est en hausse de 32% par rapport à 2020, ce qui représente une marge de 8% en hausse de 150 points de base par rapport à l'année dernière. Et par ailleurs, un résultat opérationnel non courant de 157 millions d'euros lié au recentrage qui inclut deux grands blocs, les plus-values de cession et les résultats d'Égide Domitys et Century 21 enregistrés au premier semestre pour 218 millions d'euros et par ailleurs la dépréciation à 100% du goodwill de Pantera pour 61 millions d'euros compte tenu de la décision d'arrêter le développement en Allemagne à la suite de la volonté du groupe d'allouer le capital en priorité sur la France, comme l'a indiqué Véronique. Le résultat financier est stable à moins 87 millions d'euros. La charge d'impôt progresse à moins 102 millions d'euros compte tenu de la hausse du résultat imposable. Ça représente un taux effectif d'impôt à 31%. Enfin, le résultat net part du groupe s'élève à 325 millions d'euros. C'est le triple de celui de 2020. C'est le double de celui de 2019. En retraitant des éléments non courants, il s'élève à 188 millions d'euros. Il est donc en progression de 40% par rapport à 2020 et 5% par rapport à 2019. Cela représente un BNPA de 5,9 euros par action, 3,4 euros par action sur le nouveau périmètre, qui est donc, comme l'indique le titre du communiqué de presse, assez plus haut historique pour l'entreprise. Concernant le détail du chiffre d'affaires en slide 28, le chiffre d'affaires publié que l'on voit sur la partie gauche du slide s'établit à 4,837 millions d'euros, donc stable par rapport à 2020, puisque la croissance organique du chiffre d'affaires du nouveau périmètre, qui représente donc 5% de croissance, est compensée par la déconsolidation du chiffre d'affaires des activités cédées. Sur la droite, le chiffre d'affaires nouveau périmètre s'établit donc à 4,625 millions d'euros. Progression, je l'ai dit, de 5% par rapport à 2020, 15% par rapport à 2019, mais avec des tendances très contrastées par métier, du fait d'une année 2020 qui avait été très particulière avec, vous en souviendrez, deux effets de base importants. D'abord, le Covid et l'arrêt complet des chantiers pendant deux mois au premier semestre 2020. Et la deuxième chose, c'est la prise de commande exceptionnelle de la Garenne Colombes en immobilier d'entreprise pour 1 milliard d'euros environ au second semestre. Donc la croissance 2021, c'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel qui est tiré d'abord et avant tout par une forte croissance de l'immobilier résidentiel, plus 19%, donc c'est-à-dire plus 520 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont environ 300 millions d'euros de rattrapage de l'impact qui avait été estimé à l'époque, au premier semestre du Covid sur le chiffre d'affaires, et environ 220 millions d'euros de croissance embarquée de l'activité. Par ailleurs, également une forte croissance des services, plus 11%. Jean-Claude en a parlé, avec une bonne dynamique sur nos trois métiers de gestion, d'exploitation et de distribution. Et à l'inverse, le chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise enregistre un repli de 45% par rapport à 2020, donc moins 400 millions d'euros, année qui a intégré, année 2020, la contribution pour 370 millions d'euros, je vous le rappelle, de l'opération de la Garenne Colombes. Or, cet effet de base exceptionnel, le repli du chiffre d'affaires de l'immobilier d'entreprise aurait été de 7%. Donc on peut dire une bonne croissance du chiffre d'affaires en 2021, sans que l'on puisse toutefois parler de rebond, tout simplement parce que chez Nexity, comme l'a dit Véronique, il n'y a pas eu de creux en 2020, contrairement au reste de notre marché. Passons au détail du résultat opérationnel, en slide 29. Donc le résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre est donc à son plus haut historique, à 371 millions d'euros. Tiré avant tout par la promotion de l'immobilier résidentiel et par les services. Le taux de marge s'établit à 8%, on le voit sur la partie droite de la slide, qui retrouve quasiment ses niveaux pré-Covid, avec une progression enregistrée sur tous les métiers. Concernant l'immobilier résidentiel, le taux de marge progresse de 100 points de base pour atteindre 8,3%, retrouvant ainsi un niveau proche de celui observé en 2019, démontrant notre bonne capacité à préserver la rentabilité sur ce métier. La crise sanitaire, comme les tendances inflationnistes, n'ont pas eu d'impact marqué sur nos niveaux de marge en 2021, compte tenu de la sécurisation de la marge dès son entrée en backlog, comme l'a expliqué Véronique. Les prises de commandes de cette année qui serviront de socle pour l'activité 2022 et les années suivantes se sont également réalisées dans des conditions proches de nos marges normatives, conservant un bon niveau de visibilité sur l'activité et les marges futures donc pour l'immobilier résidentiel. Je termine en précisant que l'arrêt du développement à l'international, qui représente aujourd'hui moins de 2% du chiffre d'affaires de la promotion, n'aura pas d'impact négatif sur nos comptes en 2022. Concernant l'immobilier d'entreprise, le taux de marge s'élève donc à 11,9%, c'est toujours au-dessus de ses niveaux normatifs. Compte tenu des perspectives à court terme de ce marché, qui est en bas de cycle, et du portefeuille de projets en cours de montage, ce taux de marge est amené à baisser, à revenir à ses niveaux normatifs, donc inférieurs à 10%, avec un chiffre d'affaires attendu également en baisse. Enfin, pour les services, le taux de marge progresse de 340 points de base pour atteindre 8,7% grâce à la conjonction, comme l'a dit Jean-Claude, de meilleure mutualisation de ressources, de digitalisation accrue de l'activité, de meilleurs taux d'occupation, d'une forte activité commerciale dans la distribution, et cette progression devrait se poursuivre en 2022 compte tenu de la dynamique engagée. Alors après le compte de résultat, passons au bilan avec une vue d'ensemble en slide 30 qui montre un bilan solide avec des capitaux propres qui sont renforcés. Ils sont en augmentation de 200 millions d'euros par rapport à 2020 pour s'élever à quasiment 2 milliards d'euros. Un endettement net total de 1 milliard 224 millions d'euros avec une répartition équilibrée 50-50 entre les obligations locatives IFRS 16 et les dettes financières qui représentent donc 30% des capitaux propres. Et enfin, un BFR maîtrisé à 1 milliard 119 millions d'euros. Alors, concernant le BFR, justement, slide 31, ce BFR est donc en augmentation de 437 millions d'euros par rapport à 2020. Mais il est important de regarder la dynamique depuis 3 ans et par métier pour bien comprendre que cette augmentation traduit surtout et en réalité, comme nous l'avions déjà évoqué ici lors des résultats du 30 juin, un BFR de l'immobilier d'entreprise qui était exceptionnellement bas, négatif d'ailleurs, à moins de 267 millions d'euros à fin 2020, compte tenu d'avance qui avait été versé par les investisseurs lors de la signature des grandes opérations de la Garenne Colombe et de Rewa. Retraité de cet effet, le BFR est globalement stable depuis 3 ans. Il provient principalement de la promotion de l'immobilier résidentiel, donc avec un BFR à 1 milliard d'euros, qui représente 18% du backlog, ce qui est en ligne avec les niveaux enregistrés historiquement sur ce métier. Alors, gardez en tête que ce BFR inclut les engagements fonciers au titre de la Land Bank, qui représente autour de 280 millions d'euros à fin décembre, en progression de 100 millions par rapport à 2020 et 160 millions par rapport à 2019. Donc, on peut dire une très bonne maîtrise, en fait, de notre BFR qui a permis, depuis 3 ans, d'augmenter nos réserves foncières sans modifier la configuration générale de notre structure financière et en préservant un modèle asset light de Nexity. Alors, concernant l'endettement financier net, en slide 32, il a donc baissé en 2021, à la fois en montant absolu et en ratio de levier, en conséquence des effets décrits sur cette slide. Il s'agit évidemment de l'endettement financier avant obligation locative. Alors, si je vais de gauche à droite, nous avons commencé l'année avec une dette nette à 655 millions d'euros, ce qui représentait un levier de 1,9 fois l'EBITDA. La revue stratégique a permis de réduire l'endettement d'environ 400 millions d'euros, comme nous l'avons déjà vu au 30 juin. Ce sont les effets périmètres du bloc vert, avec 105 millions d'euros de reclassement de dette IFRS déjà comptabilisés en 2020, des produits de cession pour 200 millions d'euros environ, et l'annulation de l'engagement de rachat des minoritaires d'Égide Domitys pour 107 millions d'euros. Par ailleurs, la croissance organique du reste de Nexity, donc le bloc violet sur cette slide, a contribué paradoxalement à augmenter l'endettement net de 180 millions d'euros, principalement en raison de l'augmentation exceptionnellement élevée du BFR d'exploitation sur l'année que je viens d'évoquer précédemment. Et enfin, les retours aux actionnaires se sont élevés à 131 millions d'euros, tenant compte du dividende payé en mai pour 110 millions d'euros et du programme de rachat d'actions à impact ESG que nous avons effectué en décembre dernier pour 20 millions d'euros. Tout cela porte le niveau d'endettement au 31 décembre à un peu moins de 600 millions d'euros et un ratio de levier à 1,5 fois, donc une réduction de l'endettement permise en résumé par trois facteurs: la finalisation de la revue stratégique, l'augmentation du résultat d'exploitation et de l'EBITDA et la bonne maîtrise du BFR au-delà de l'effet mécanique du retournement des acomptes. Donc une situation financière solide que nous voyons comme un atout dans un monde plein d'incertitudes. Slide 33, c'est notre situation financière, intègre de fortes liquidités à fin d'année avec une trésorerie de plus d'un milliard d'euros et des lignes de crédit non utilisées pour 600 millions d'euros. La structure de financement a par ailleurs été renforcée cette année avec l'émission d'une Océane de 240 millions d'euros en avril dernier, qui a permis de prolonger jusqu'en 2028 une dette de 240 millions d'euros et de rallonger ainsi la maturité moyenne de la dette Nexity à plus de 3 ans, avec des remboursements donc limités sur les 3 prochaines années selon l'échéancier que vous voyez sur la droite. Et pour conclure cette partie, un mot sur les tableaux des flux de trésorerie. La capacité d'autofinancement avant coût du financement et les impôts s'élève, vous le voyez, c'est la première ligne du tableau, à 541 millions d'euros. Elle est proche de l'EBITDA avant loyer. Après loyer, elle s'élève à 358 millions d'euros. Elle est en hausse de 12% par rapport à 2020. Malgré cette augmentation, le cash flow libre de l'année est négatif à moins de 119 millions d'euros. C'est la conséquence du retournement du BFR entre son niveau de 2021 et celui de 2020, qui était exceptionnellement bas et qui d'ailleurs avait eu l'effet inverse sur le free cash flow de 2020, qui était exceptionnellement élevé. Donc la moyenne 2 ans de free cash flow s'élève à 170 millions d'euros. C'est sans doute un chiffre qui est plus représentatif de la génération de cash annuel de Nexity. Enfin, dernière partie du tableau, les flux de trésorerie liés aux investissements financiers de 191 millions d'euros intègrent principalement le produit de cession de Century 21 et d'Egide. Ils sont compensés par le paiement du dividende, les rachats d'actions et les remboursements de financement au cours de l'exercice pour 162 millions d'euros au total. Et je vais passer la parole à Véronique pour conclure sur les perspectives.
En conclusion, rapide au fond, la bonne nouvelle pour 2022, si on regarde devant nous, c'est qu'on est en train de sortir de la crise sanitaire. Si on met de côté l'espace d'un instant les tensions en Ukraine, on va se retrouver au fond sur nos marchés face à des sujets un peu plus classiques de taux d'intérêt, d'inflation et de coûts de construction. Nos convictions sur 2022, c'est d'abord au fond la force du besoin de logement. Je ne parle pas de la demande là, je parle vraiment du besoin de logement. Ça fait des années, vous le savez, qu'au fond on construit moins que ce qui serait nécessaire. Aujourd'hui, on a l'INSEE dit qu'on a 2 millions d'habitants supplémentaires à attendre dans les 20 années qui viennent. La Fondation de l'Abbé Pierre l'a rappelé, il y a 4 millions de mal logés dans ce pays, 1,7 million de personnes qui cherchent un logement social. Et puis on a un trend de décohabitation qui continue à croître. Donc le besoin sous-jacent, il est extrêmement puissant. En termes de demande, on a eu l'année dernière une demande forte au fond des particuliers. Alors on peut s'interroger évidemment sur leur capacité à accéder au crédit dans les mêmes proportions cette année compte tenu des indications données par le Haut Conseil à la stabilité financière. Mais pour l'instant, ils sont là. Et puis, on a vraiment face à nous un fort appétit des investisseurs institutionnels qui sont très présents et ne trouvent pas, au fond, l'offre nécessaire pour reconstituer les portefeuilles de logements dont ils auraient envie. Notre conviction, c'est que, quoi qu'il arrive, de toute façon, le logement, et vous l'avez vu, c'est rentré dans la campagne présidentielle, sera un thème pour le prochain gouvernement qui devra, de toute façon, si besoin en est, aider la demande à s'exprimer. Autre élément d'optimisme, au fond mesuré, mais malgré tout d'optimisme, on a un début de redressement de l'offre parce que les permis commencent à sortir lentement, mais ils commencent à sortir. Et puis j'ai aussi la conviction que les mouvements sur le bâti existant vont commencer à s'accélérer. Vous avez en tête le décret tertiaire qui va obliger, au fond, tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à réduire leurs émissions de carbone et à réduire leur consommation d'énergie. On a les mêmes sujets avec la loi Résilience et Climat sur le DPE et l'interdiction de loger, de louer en 2025 des appartements qui n'auraient pas une bonne performance. Moi, je pense qu'il va y avoir un mouvement dans le stock. On est bien placé pour le saisir grâce à nos activités de service. Et puis, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, de toute façon, la demande des entreprises elles-mêmes va se stabiliser hein, sur un modèle qui reste à déterminer, mais il va vraiment y avoir du mouvement dans les années qui viennent. Les conclusions qu'on tire de ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est qu'au fond, nos résultats 2021 nous autorisent une hausse du dividende à plus de 25%, hein, qui est une hausse très forte à 2,5 euros par action, après deux années de crise où le dividende était revenu à 2 euros. En termes de guidance, ce qu'on se donne comme objectif, c'est de monter légèrement au-dessus de 14% notre part de marché. Donc, on continue à croître en part de marché. Dans un marché qu'on pense toujours en légère croissance, passerait de 145 000 à 150 000 lots, parce que malgré tout, les permis sont en ce moment longs à obtenir. On se donne un objectif de marge opérationnelle autour de 8% et un résultat opérationnel courant au moins égal à 380 millions d'euros. Évidemment, on vous donne rendez-vous fin avril pour une journée investisseur. Notre conviction, vous l'avez compris, c'est qu'on est très solide en sortie de crise. On a montré notre puissance au fond. On est plus manœuvrant. Donc, on reviendra vers vous avec, au fond, un plan stratégique qui va nous permettre de prendre un prochain cycle de croissance. Je crois que ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'on va travailler l'effet taille. On est dans un moment de marché où l'effet taille, à cause de la technicité, au fond, de tous ces sujets bas carbone, à cause du coût des travaux, où la taille est un avantage, fait que la taille de Dexity va être un avantage important dans le prochain cycle de croissance qui vient. Et puis, la stratégie qu'on vous proposera ne sera pas une révolution, ce sera l'approfondissement de cette plateforme de service. Je pense que Jean-Claude vous a montré à quel point, au fond, elle était en train de se mettre en œuvre. On va vraiment l'approfondir et on va se rapprocher au plus près de la demande de nos clients pour initier un nouveau cycle de croissance. Voilà ce que nous avions envie de vous dire ce soir sur nos résultats. Et je pense que maintenant, on va vous laisser les paroles pour la parole pour les questions, si vous en avez, si vous le souhaitez.
Si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. Je vais vous avertir quand vous posez votre question. La première question vient de la ligne de M. Pierre Clouard de la société Kepler.
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Alors, j'ai trois questions pour vous. Je vous propose de les faire une par une. Ma première question, c'est sur votre guidance et sur les 8% de marge opérationnelle attendue sur 2022. Est-ce qu'on pourra avoir une idée des grandes hypothèses que vous avez prises pour construire cette guidance, notamment sur les hausses de prix et les hausses des constructions? Est-ce que les hausses de construction sont en partie compensées par une plus faible inflation sur les terrains ou pas du tout?
Bonjour Pierre-Emmanuel, c'est Nadia Bensalem-Nicolas. Écoutez, cette guidance, et crois que votre question, c'est plus précisément ce qu'il y a en termes d'hypothèses pour 2022 en termes de coûts de construction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'état actuel du marché, on anticipe globalement une hausse des coûts de construction pour 2022 de l'ordre de 4%, entre 3 et 5%. Je vous rappelle que les coûts de construction chez Nexity, enfin dans cette activité de promotion, ça représente environ 50% du coût d'un projet, dont 50% pour les matériaux de construction et 50% pour les travaux de construction. Alors on pense que l'impact global sur le résultat de Nexity en 2022 devrait être limité de cette hausse des coûts de construction. On est confiant dans la capacité à maintenir notre niveau de marge opérationnelle, hein, comme l'indique notre guidance, puisque pour les projets en cours, je le redis, les prix ils sont déjà fixes, les prix du terrain, les prix de vente et les prix des marchés travaux, et donc non impactés par une évolution des coûts de construction. Et pour les futurs projets, il existe, donc on a des promesses foncières qu'on n'a pas encore commencé à commercialiser, et donc il est possible d'ajuster le prix de vente. Et d'ailleurs, on l'a fait en 2021, comme l'a dit Hélène, hein, vous avez vu les augmentations de prix au mètre carré, c'est 3% en région et 2% en Île-de-France, au coût de la construction, et même dans certains cas, de pouvoir renégocier le prix du foncier. Donc voilà, dans les grandes lignes, les hypothèses sur les coûts de construction qui, et de notre modèle qui nous confortent dans notre guidance pour 2022 en marge.
Ok, c'est clair. Merci. La deuxième question, c'est sur le working cap et la dette attendue en 2022. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de couleur sur vos attentes, notamment sur l'augmentation du working cap et de la dette in fine en 2022? Est-ce qu'on peut s'attendre à une très forte augmentation de la dette ou pas?
Alors écoutez, de façon plus globale, et avant de parler de 2022, on l'a toujours dit, à moyen terme, au-delà de 2022, et conformément à ce qu'on a dit dans le passé et au regard de covenants bancaires, nous on est à l'aise avec un niveau d'endettement net qui peut aller jusqu'à une fourchette de 2,5, 3 fois l'EBITDA. Bon, on a atteint, vous l'avez vu en 2021, un point vraiment bas, 1,5 fois de ratio de levier. C'est un niveau très confortable qui nous permet d'envisager l'avenir avec confiance et ambition, mais tout en restant, je dirais, un niveau d'endettement en 2022 inférieur à 2 fois en levier, sauf si il y avait des opportunités foncières extraordinaires, exceptionnelles, qui nous feraient passer cette limite, mais je pense que pour fin 2022, on devrait être à un niveau d'endettement inférieur à 2 fois en l'état actuel des choses.
D'accord, ok. Ce qui fait grosso modo à la louche 350 millions d'augmentation de dette.
En tout cas, bien inférieur. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que le consensus actuel ou les chiffres que j'ai pu voir passer d'endettement sur 2022 qui parfois s'élevait à 1 milliard nous semble être un très très grand maximum qui vraiment supposerait qu'on ait des limites, je dirais, utopiques qui supposeraient qu'on ait vraiment de très belles opportunités foncières.
Okay,
il n'y a pas de raison que le BFR opérationnel classique se dégrade, hein, je pense qu'on le tient très bien. On a déjà une langue banque à 280 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal, et puis elle a vocation à tourner, donc je pense qu'il n'y a pas de sujet de dégradation de notre endettement.
Ok, c'est très clair. Donc, grosso modo, entre le niveau de 2021 et le milliard max, on ne devrait pas être trop loin de la réalité, quoi. Ok, et une dernière question, c'est sur votre revue stratégique. Vous arrêtez totalement l'Allemagne, c'est bien ça? Donc on n'aura plus du tout de projets faits en Allemagne?
Alors écoutez, là-dessus, peut-être pour clarifier les choses, en fait on n'annonce pas une fermeture de nos activités à l'international, mais j'irai plutôt un pilotage différent et une limitation de nos investissements en fonds propres pour développer de nouvelles opérations à l'international. Il faut garder en tête que ce sont des pays où la promotion immobilière consomme plus de capital qu'en France. Voilà ce qu'on peut dire. Et que donc, on est dans l'arrêt du développement en Allemagne. Donc, il n'y aura pas de nouveaux projets. Et l'arrêt de ce développement ne devrait pas générer de pertes pour les exercices futurs.
OK, c'est clair. Et alors, je suis désolé si ma question peut être désagréable, mais c'est la deuxième volte-face stratégique après Gilles de Mitis qu'on voit depuis, depuis sur les deux dernières années. Est-ce qu'on est dans une stratégie de test and learn et on voit si ça marche, ou est-ce qu'on a fini avec cette stratégie?
Écoutez, revenir sur l'Allemagne, je ne sais pas si on peut dire que c'est une volte-face stratégique. Il faut garder en tête qu'on a pris le contrôle de l'entreprise Pantera à la veille du Covid. Hein. Le confinement a commencé le 15 mars, ce qui a compliqué l'intégration de la société. Avec la longueur de la crise sanitaire, a par ailleurs dégradé le contexte économique allemand, qui est devenu moins porteur, notamment pour les résidences gérées, hein, le tourisme d'affaires, la location courte durée, qui était quand même le cœur de marché de Pantera et qui ont souffert d'un moindre taux d'occupation. Donc je dirais que, je ne sais pas si c'est un revirement stratégique, je dirais plutôt que c'est la conjonction de un facteur conjoncturel, une acquisition sur un marché qui a été particulièrement secoué par le Covid, et deux, finalement, et Véronique l'a dit, la conviction qu'il y a une évolution nécessaire de notre métier en France, compte tenu de la concurrence acharnée sur le foncier et compte tenu du recentrage de nos métiers sur la ville existante et l'accompagnement des collectivités, donc vraiment construire la ville sur la ville plutôt que l'expansion urbaine, qui est en fait pour nous un gisement d'opportunités. Et notre approche en termes de stratégie de capital est de considérer qu'il y a une profondeur de marché et un right to play, hein, je dirais, concernant la position de Nexity, qui est beaucoup plus importante sur le marché français que sur l'international. Donc voilà, la conjonction de facteurs conjoncturels sur le marché allemand et une conviction structurelle concernant les potentialités du marché français.
Okay. C'est clair. Merci beaucoup. Donc, du coup, on revient sur le Nexity 2018, si je comprends bien.
En tout cas, avec, je ne sais pas si c'est le Nexity 2018, dans l'intervalle, la plateforme de service a accéléré. Nexity a consolidé sa part de marché en immobilier, plus que consolidé en immobilier résidentiel. Est devenu le premier promoteur d'immobilier d'entreprise par ailleurs. Donc, je ne sais pas si on peut dire tout à fait que c'est le même Nexity que 2018. En tout cas, l'international, je le redis, représentait moins de 2% du chiffre d'affaires.
OK, merci beaucoup.
La question suivante vient de la part de Monsieur Christophe Chaput de la société Odo.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre ma
question.
Bonsoir. Quelques petites précisions, s'il vous plaît. Je voulais rebondir justement sur l'activité de service et la profitabilité. Donc là, vous rejoignez vous êtes à 8,7%. En 2019, vous étiez à 10%. Et donc, la question, c'est de savoir finalement à moyen terme, comment vous envisagez le potentiel de profitabilité en fait de ce pôle. Est-ce que l'idée, c'est de rejoindre 10 ou est-ce que c'est d'aller légèrement au-delà en fait? Comment il faut voir?
Je peux commencer, Jean-Claude, tu peux bien évidemment compléter. En effet, vous avez raison, Christophe, je l'ai dit, il y a une bonne progression de la rentabilité des services enregistrés en 2021 et dans les années à venir. L'idée, c'est d'aller, de tangenter, même de dépasser les 10%, et donc on devrait continuer à enregistrer en 2022 une progression de la marge des services. Les potentiels, que ce soit en termes de pricing, de la qualité de l'offre ou de travail sur la base de coûts, ou à travers le travail sur nos process, sur la mutualisation de ressources, les potentiels d'amélioration de la marge, services sont nombreux et la trajectoire dans laquelle on s'inscrit, c'est effectivement une trajectoire de progression pour les années à venir.
Absolument, je confirme ce que vient de dire Nadia. Et en ajoutant de plus que c'est pas un raisonnement qui doit être stand-alone. La notion de plateforme de service, c'est pas les services d'un côté, la promotion de l'autre. Le vrai upside pour Next City, c'est de pouvoir effectivement faire des offres combinées. Et ces offres combinées permettent à la fois de développer les services et la promotion. C'est vraiment ce que nous recherchons à travers la plateforme de service et les itérations avec les clients, etc. À la fin des fins, c'est bien de pouvoir combiner nos offres. C'est ce que nous avons fait. Quand j'ai donné l'exemple de l'appel d'offres sur Confluence, c'est un premier exemple du fait qu'en combinant nos expertises, on est plus pertinent, plus efficace et à la fin, on passe devant notre concurrence.
Juste, à contrario, sur l'immobilier résidentiel, en fait, la marge baisse légèrement en fait par rapport à 2019, hein, 60 points de base et notamment sur le S2, si mes calculs un peu rapides sont exacts, sur 2021. Vous pouvez nous rappeler le rationnel de baisse de profitabilité? Ça vient du mix client ou il y a un autre facteur qui explique cette petite érosion?
Client plus de sociaux.
C'est ça, c'est du mix client en fait avec plus de social.
Oui, avec l'importance en particulier sur le deuxième semestre des ventes des logements sociaux qui se concentrent à 60% sur le dernier trimestre de l'année.
C'est un effet de rattrapage sur l'année précédente où je pense qu'un certain nombre d'accords avec les bailleurs sociaux n'ont pas eu lieu, qui se sont reportés sur 21. Et vous le voyez dans la structure de vente.
Oui, 23% en 2020 de part de logements sociaux qui est passé à 29%. C'est le report des agréments sur les logements sociaux qui n'ont pas pu être obtenus en raison de la crise sanitaire. Les commissions n'ont pas pu se tenir, elles se sont tenues en 2021.
Vous avez vu à 20% en 2020, qui était au fond en deçà de ce que nous impose assez naturellement la loi SRU, mais c'était vraiment lié à la période Covid.
D'accord. Et juste deux petites précisions, s'il vous plaît. Sur l'entreprise, vous avez évoqué le retour à une marge opérationnelle normative. Il y avait du bruit autour de moi. C'est inférieur à 10 ou 8% que vous avez donné comme chiffre?
Inférieur à 10.
D'accord. Et dernière petite précision.
Pour de 8-9.
Oui, 8-9, d'accord. Et la dernière petite précision, c'est en 2020, en fait, vous aviez donné les réservations en logement sur Aegide. Alors, sur 9 mois, j'avais 336. Vous pouvez nous rappeler, en fait, ce que vous aviez fait sur l'ensemble de l'année? C'est juste pour recomposer des parts de marché à peu près clean, enfin, hors Aegide de l'an dernier.
Alors, je parle sous le contrôle des gardiennes du temple de la communication financière, sans Aegide, nos réservations 2021 se seraient élevées à 20 101 et en 2020, 19 999.
Merci beaucoup.
Vous l'avez, Christophe, en page 13 du communiqué de presse.
Ok.
La question suivante vient de la part de Madame Marie Faure de la Société Générale.
Oui, bonsoir. J'avais une première question qui avait trait à Meridiam. J'aurais aimé que vous commentiez un petit peu ce qu'on peut attendre de ce partenariat en termes de potentiel d'activité, de partage de la valeur. Et j'avais une deuxième question également sur l'Allemagne, je suis désolée. Donc vous aviez une participation de 65%, est-ce que c'est pour mieux comprendre? En fait, vous vendez, c'est vendu, il y a une dépréciation compte tenu de la baisse du titre, de la baisse de la valorisation. Ça c'était ma première question. Et savoir également si vous pourriez pas avoir un impact positif. J'imagine que cette activité devait être dilutive sur vos marges, donc on pourrait peut-être avoir un petit upside sur 2022. Et la troisième question, c'est sur vos développements à l'international. Ce n'est pas la première fois qu'en fait Nexity s'essaye à l'international. Je me rappelle de développement en Italie qui s'était traduit à une époque par également des provisions importantes. Est-ce que vous allez mettre un terme à des volontés, à vos volontés d'expansion à l'international ou finalement votre business model s'exporte difficilement compte tenu de la forte rentabilité sur le capitaux dont vous bénéficiez en France? Donc si juste on peut avoir un petit éclairage stratégique sur cette stratégie à l'international, je vous en remercie.
On commence par la dernière question et puis on terminera peut-être par Meridiam. Merci Marilyn et bonsoir. Peut-être un petit coup de projecteur sur nos activités à l'international pour comprendre de quoi on parle. Donc, je le redis, moins de 2% de notre chiffre d'affaires. En dehors de l'Allemagne, donc où nous sommes entrés en 2020 avec l'acquisition de Pantera, nos activités sont constituées de 4 pays qui sont à des stades différents. On a la Pologne, qui est une activité mature, pérenne, profitable, qui fait partie du top 10 des promoteurs à Varsovie. Et il y a par ailleurs le Portugal, l'Italie et la Belgique, qui sont des activités plus périphériques, en cours de démarrage et donc sans engagement significatif. Je précise vraiment que la décision n'est pas mue par un caractère d'urgence particulier face à des foyers de perte. Hein, donc on n'est pas du tout dans la situation de l'Italie que vous évoquiez, Marilyn. Et donc on n'est pas pressé. C'est un recentrage qui ne sera pas immédiat, qui prendra du temps. C'est vraiment une stratégie d'allocation de capital en ayant en tête les retours sur capitaux engagés, en ayant en tête combien de capitaux il faut engager pour avoir des retours. Et c'est vraiment une stratégie d'arbitrage entre les potentialités du marché français où, je le redis, les potentialités de développement sont importantes et les atouts de Nexity à faire valoir sont importants par rapport au marché international qui est aussi très consommateur en capitaux. Et où la taille critique y est beaucoup plus faible. Voilà ce que je peux dire. Donc l'Allemagne, le projet n'est pas de vendre, mais plutôt vraiment d'arrêter le développement. Les marges embarquées qu'on a sur l'activité actuelle devraient couvrir les frais de structure et de fermeture. Et donc, il n'y a pas, comment dire, de perte à anticiper de cet arrêt de l'international. Ensuite, concernant Meridiam, ce qu'il y a à attendre, je vais commencer, puis Véronique, tu sens toi libre de compléter, évidemment. Donc, nous avons annoncé avec mi-janvier un partenariat pour accompagner les collectivités dans la réhabilitation des centres-villes en France. La coopération entre Meridiam et Nexity s'est construite autour d'un engagement commun pour la transition écologique et pour l'inclusion sociale. Elle porte surtout sur deux axes majeurs. Accompagner les grands projets urbains sur de la réhabilitation de l'habitat dégradé, de la dépollution d'infrastructures et des transitions écologiques, donc la mobilité propre, des énergies propres et du bas carbone, et la conduite d'opérations de rénovation urbaine en lien avec la stratégie nationale de redynamisation des centres-villes action cœur de ville. Voilà, donc c'est une alliance inédite qui permettra concrètement aux collectivités de s'adosser aux expertises de Meridiam, de Nexity, qui sont capables financièrement et techniquement de les assister dans la réhabilitation de leur centre-ville. C'est vraiment l'esprit de ce partenariat. Et donc, c'est un accord qui va nous permettre d'aller chercher ensemble des fonciers conséquents qui produiront des effets sur le chiffre d'affaires de Nexity dans 3-4 ans, sans porter l'endettement correspondant sur le bilan de Nexity. Dans les grandes lignes, c'est ça l'esprit de ce partenariat.
Exactement, ça correspond à une demande que nous ont fait certains maires, hein, qui se préoccupent effectivement de rénover leur centre-ville. L'idée, c'est que c'est quand même des investissements conséquents, qui finalement se transforme en chiffre d'affaires sur des délais qui peuvent être 3 ou 4 ans, que nous, on n'a pas envie de porter sur notre bilan à l'évidence. Et donc voilà, c'est l'intérêt de ce partenariat avec Meridiam. Et aujourd'hui, quand on retourne voir les maires qui nous ont sollicités, on y va ensemble, on va Meridiam et Nexity. Et nos accords seront au cas par cas en fonction, en fonction de ce que l'on doit faire dans la ville concernée.
Je vous remercie.
Merci Marine.
Merci.
La question suivante vient de la part de Monsieur Nicolas Tabor de la société Stifel.
Bonsoir, merci beaucoup de prendre mes questions. Toute première, je vais revenir sur la croissance du marché et votre part de marché dans le résidentiel. Compte tenu de la surperformance dans l'attribution de permis de construire et les efforts dans l'achat de terrain en amont, etc., pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la guidance semble si prudente dans le résidentiel et pourquoi la surperformance ne devrait pas continuer comme historiquement. Également, est-ce qu'on peut avoir un point sur les montants que vous souhaitez investir dans une land bank pour des terrains où vous n'avez pas encore un permis de construire, mais simplement en anticipation. Et puis ensuite, sur les services, c'est quel niveau de croissance est-ce que vous attendez pour l'année prochaine et les prochaines années, quelles sont les perspectives à attendre?
Tu veux commencer, Hélène, ou alors est-ce que tu veux que je commence peut-être par le montant vas-y, peut-être sur le marché
sur le marché, clairement, on peut imaginer qu'avec le nombre de permis de construire qui ont été déposés, et qui sont effectivement nombreux, la part de marché pourrait être plus importante. Néanmoins, il est aujourd'hui tout à fait aléatoire d'imaginer que la délivrance des permis s'accélère de façon brutale. C'est un lent redressement de délivrance de permis de construire. Les délais sont plus longs, c'est un fait. Les villes mettent du temps à nous donner leur propre desiderata. Donc, nous sommes amenés à les retravailler une première fois, une deuxième fois, parfois une troisième fois. D'où des délais qui sont très longs et qui laissent envisager des ripages d'une année sur l'autre. Et c'est donc par prudence qu'on établit notre part de marché de plus de 14%. Mais clairement, la question de la maîtrise du délai est centrale.
Alors, je peux peut-être prendre la question sur le montant à investir en land bank. Donc, je l'ai dit en réponse à une des questions. Cette accélération dans les investissements correspond, selon nous, à une évolution nécessaire du métier, compte tenu de la concurrence sur les fonciers et compte tenu du recentrage sur la ville existante et de la ville sur la ville. Donc l'évolution, elle est visible dans nos états financiers avec une augmentation de 100 millions d'euros en investissement en 2021 pour atteindre 280 millions d'euros à fin décembre. On est dans la limite du cadre initial qu'on s'était donné à 300 millions d'euros qui avait été communiqué. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui de nécessairement dépasser cette limite. Il y a une attention surtout particulière à bien gérer la rotation des actifs. S'assurer qu'elle reste dans une rotation d'actifs autour de 2 ans, parce que c'est pas cette land bank n'est pas un stock, hein. Il y a des flux, ça rentre et bien évidemment ça sort. Nicolas, en conclusion, je dirais qu'on essaie d'avoir une politique vraiment mesurée et une approche très opportuniste, hein, sur cette land bank. On se positionne uniquement sur des fonciers avec des valorisations qui sont indiscutables, des emplacements de qualité et avec des perspectives de délai d'obtention des autorisations qui sont maîtrisées. Voilà ce que je peux dire sur la land bank. Et la troisième question était, je l'ai déjà oubliée, pardonnez-moi.
Oui, c'était sur les perspectives de croissance des services en 2022 et au-delà.
Écoutez, si je dois reprendre un peu notre guidance, en étant à 380 millions d'euros avec une marge d'environ 8%, ça veut dire que ça représente implicitement, je dirais, une croissance de chiffre d'affaires d'environ 3%, avec des tendances différentes par métier, avec un immobilier d'entreprise d'un côté, je l'ai dit, qui devrait continuer à souffrir en 2022 qui est toujours en bas de cycle, avec malgré tout un backlog élevé, toujours autour d'un milliard, qui nous permet d'attendre sereinement le redémarrage du marché. Donc l'écoulement de ce backlog devrait permettre d'atteindre un chiffre d'affaires autour de 400 millions d'euros en 2022, donc ça veut dire quand même une baisse conséquente par rapport au chiffre d'affaires de 2021. Et en revanche, le chiffre d'affaires de l'immobilier résidentiel et les services devraient bénéficier d'une bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires. Je pense qu'on peut dire que pour les services, c'est les anglo-saxons, on dirait un high single digit pour l'activité service en 2022.
Oui, pour être un tout petit peu plus spécifique, dans les services, il faut distinguer les activités de gestion. Ces activités de gestion, compte tenu de leur structure, sont des activités qui devraient avoir une projection de l'ordre, effectivement, entre 5-6%, entre 5-7% sur les deux ans qui viennent. Et sur les activités de bureau à l'usage, on est effectivement sur... une ambition de croissance qui devrait être supérieure à 10%.
Merci beaucoup, c'est très précis. Et tout simplement, sur la politique de dividendes, est-ce qu'il y aura une évolution à venir sur le payout ratio ou stabilité ou pas d'indication, tout simplement.
Écoutez, ce qu'on peut quand même... Oui, c'est un peu tôt. déjà, sur le dividende 2021, vous l'avez vu, il est en hausse de 25%. La priorité de Nexity, ça a toujours été de mettre en place une solide politique de distribution. On en fait la démonstration cette année encore. On a un bon track record. On a toujours été attentif au niveau de dividendes. On regarde ça au regard des équilibres financiers de la société et on va continuer à le faire. Mais le message, c'est de maintenir une politique de retour continu à nos actionnaires.
Très bien, merci beaucoup.
On va peut-être s'arrêter là, il est 20h. Merci à tous.
Merci à
tous pour votre attention, merci pour vos questions. Et bien évidemment, l'équipe des relations investisseurs avec Domitier et Géraldine est à votre disposition s'il y a des questions que vous n'auriez pas évoquées durant ce call. Merci à tous et bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.